الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Serviteur d'Allah, notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a été questionnée sur le comportement et la moralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et elle a répondu, son caractère était le Coran. Quand elle a dit son caractère était le Coran, comme ont dit les savants, cela veut dire que son caractère réunissait tout ce qu'on trouvait dans le Coran. Tout ce que le Coran a aimé, tout ce que le Coran a vanté comme caractère, tout ce à quoi le Coran a appelé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait en pratique. De même, tous ceux que le Coran a détestés, tous ceux qu'il a interdits, tous ceux qu'il a demandé de délaisser, alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en était le plus loin. Et c'est pour ça, le Coran était ce qui explique le mieux son caractère, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, qui est la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, le livre qu'il a choisi pour être le guide pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ce Coran, il élève des gens et il en rabaisse d'autres, comme il a été rapporté dans le hadith que l'imam Muslim rahimahullah a cité. Que Nafi' ibn Abdil Harith, il a rencontré le chef des croyants, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab. Il l'a rencontré à Asfan. Et Omar l'avait désigné comme gouverneur à Mecca. Et Nafi' ibn Abdil Harith lui a demandé à Omar, qui as-tu désigné comme gouverneur sur Al-Wadi? Omar a dit, j'ai désigné Ibn Abzi. Il lui a dit, qui est ce Ibn Abzi? Il a dit, c'est un affranchi parmi nos affranchis. Un affranchi, ça veut dire que c'était un ancien esclave qui a été affranchi, qui a été libéré. Il a dit, quoi? Tu as mis comme gouverneur un affranchi? C'est-à-dire, quand c'est un affranchi, ça veut dire que c'est un non-arabe. Ce n'était pas un arabe. Alors, Omar radiallahu anhu de répondre, c'est quelqu'un qui lit le livre d'Allah, qui connaît le livre d'Allah. Et il connaît les règles de la succession. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah élève avec ce livre certaines gens et il en rabaisse d'autres. Certes Allah élève avec ce livre certaines gens et il en rabaisse d'autres. Il a voulu lui montrer que même des affranchis non arabes, quand ils ont appris le Coran, ils l'ont mis en pratique, Allah les a élevés. Et que si les arabes, ils délaissent ce Coran et ils le mettent derrière leur dos, Allah va les rabaisser. Et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Furqan, verset 30, dans le sens des versets, et le messager dit, ô mon Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran comme une chose délaissée, comme en exil, ils l'ont délaissé. Et effectivement, Ibn al-Qayyim rahimahullah explique dans son livre Al-Fawa'id les différentes façons de délaisser ou d'exiler le Coran de sa vie. Il a dit, dans le sens de ses paroles, la première manière, c'est le fait de délaisser l'écoute du Coran et de s'y intéresser et de croire en lui. La deuxième manière, c'est le fait de délaisser le fait d'agir avec le Coran. Alors il ne fait pas ces choses licites et il ne délaisse pas ses interdits, même s'il le lit et il croit en lui. La troisième manière, c'est le fait de délaisser de se faire juger par le Coran, que ce soit dans les bases ou dans les détails. Quatrième manière, c'est le fait de délaisser sa méditation et sa compréhension. Donc on ne peut pas en comprendre les règles. Et on ne peut pas suivre sa lumière. Et on ne peut pas comprendre ce que celui qui a parlé veut nous dire. Qui est celui qui nous a parlé? Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. La cinquième manière, c'est le fait de délaisser le fait de se soigner avec le Coran, avec la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand on écoute ces paroles d'Ibn al-Qayyim, on voit que toutes ces sortes d'exil sont présentes dans notre vie. Et qu'ils sont répandus aujourd'hui parmi les manières de délaisser le Coran, c'est le fait de ne pas le lire. Qui d'entre nous lit le Coran journalièrement? Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a révélé comme message, comme guidé, comme lumière. L'anse solide à laquelle on s'accroche pour être guidé. Le Coran, il est divisé en 30 juz ou en 60 hizb. Un juz, ça fait à peu près 20 pages. Lire 20 pages pour quelqu'un qui lit normalement l'arabe, ça prend une demi-heure, maximum 40 minutes. On n'est pas capable de libérer 30 minutes ou 40 minutes par jour pour lire la parole d'Allah. Mais combien de temps on passe à lire des articles sur Internet, ou bien même les journaux, ou bien même des livres inutiles, des romans ou je ne sais quoi. Mais pour lire la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, une demi-heure ou 40 minutes par jour, on n'est pas capable. Illa man rahim Allah. Parmi les manières, ou parmi les choses qui sont répandues aujourd'hui dans la manière d'exiler le Coran de sa vie, c'est le fait qu'on l'a exilé dans l'écoute aussi. On ne prend pas le temps d'écouter le Coran. Et on préfère écouter à la place du Coran la musique et les chants. On préfère écouter le Coran du Shaytan au lieu d'écouter le Coran de Rahman. On préfère écouter le Coran du Shaytan au lieu d'écouter du Coran, la parole d'Allah, le Coran du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Ou bien passer son temps à regarder des émissions télévisées, ou des films, ou des séries, ou des matchs sportifs. Mais écouter le Coran, non. Parmi les manières dont on a exilé le Coran de nos vies, c'est que les comportements et la moralité auxquels appelle le Coran sont dans une plaine, et nos comportements et nos vies sont dans une autre plaine. C'est-à-dire, le Coran, il est dans un chemin, nos vies, elles sont dans un autre chemin. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les musulmans mettent en pratique la moralité et le comportement auquel le Coran nous appelle? La véracité, le courage, la sincérité, l'altruisme, la générosité, etc., etc., etc. Parmi les façons dont on a exilé le Coran de notre vie, des fois on connaît ce qu'il a prescrit comme obligation. Et on connaît ce envers quoi il a mis en garde comme interdiction. Mais on ne les met pas en pratique. Des fois, certains se vantent même de trouver des ruses pour ne pas mettre en pratique ces choses-là. Et ils insultent et ils critiquent les gens qui s'attachent au Coran et les gens du Coran comme étant des gens attardés. Regarde ce Boulahia là. Et ils se vantent du fait de ne pas ressembler à ces gens-là. Et il y a certains pays où les gens du Coran, c'est les derniers de la société. Ils les traitent comme rien du tout. Ils se moquent d'eux. Leur sujet de blague quand ils sont assis, c'est les gens du Coran. Parmi les manières d'exiler le Coran, c'est le fait qu'on ne revient pas, quand on diverge, à se faire juger par le Coran. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné que si on n'est pas d'accord sur une chose, on le ramène au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se faire juger. On ne cherche pas le jugement d'Allah, mais on cherche le jugement des hommes. Que ce soit dans la religion, dans les croyances, dans les adorations, ou même dans les choses de la vie de tous les jours. Parmi les manières d'exiler le Coran, c'est que nous ne réfléchissons pas et nous ne méditons pas sur les sens du Coran. Nous ne cherchons pas à comprendre ce qu'Allah Ta'ala a voulu nous dire en lisant le tafsir, l'explication du Coran, en en comprenant les sens et les règles. Et souvent, on en comprend le contraire. Certaines personnes, ils viennent et te ramènent le Coran et ils l'expliquent selon ses passions. Sans une lumière d'Allah, tabarak wa ta'ala, sans science. Ils ne l'expliquent pas avec le livre d'Allah, ni même avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais ils l'expliquent selon ses passions. Parmi les manières d'exiler le Coran, c'est le fait qu'on a délaissé l'apprentissage de la langue du Coran, qui est la langue arabe. Et qu'on n'a pas le souci d'apprendre cette langue et enseigner cette langue à nos enfants pour qu'ils puissent comprendre le Coran, comprendre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et pour pouvoir la mettre en pratique. Les pieux prédécesseurs, la première chose qu'ils faisaient, ils enseignaient le Coran à leurs enfants. Quand ils connaissaient le Coran, ils leur enseignaient le hadith. C'est les premières choses qu'ils apprenaient. Mais aujourd'hui, on préfère que nos enfants soient très forts dans les sciences mondaines, qu'ils apprennent toutes les langues avec lesquelles ils peuvent gagner le dunya, mais pas la langue avec laquelle ils peuvent gagner le paradis. Pas la langue avec laquelle ils peuvent apprendre le livre d'Allah. Pas la langue avec laquelle ils peuvent connaître les règles d'Allah. Pas la langue avec laquelle ils peuvent savoir comment réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Et même dans certains de nos pays d'origine ou dans les pays musulmans, c'est devenu un objet de vantardise de parler anglais ou français. Les gens de haute classe, ils ne parlent pas la langue du pays, ils ne parlent pas arabe. C'est la honte. Ils parlent anglais ou français. Ils préfèrent la langue des Européens plutôt que la langue qu'Allah a choisie pour révéler son livre. Parmi les manières d'exiler le Coran, c'est le fait qu'on a délaissé le fait de se soigner par le Coran. Le Coran, c'est une guérison pour nos cœurs et c'est une guérison pour nos corps. Attention, ça ne veut pas dire d'aller voir tous les charlatans qui disent « je vais te soigner par le Coran ». Tu te soignes pas toi-même, Inch'Allah, par le Coran. Tu invoques Allah Ta'ala et tu lis le Coran sur toi-même. C'est la meilleure manière de se soigner par le Coran. De se faire ruqya soi-même. Car Allah Tabarak wa Ta'ala, il a révélé que ce livre est une guérison pour les croyants. Alors, je m'étonne aujourd'hui de voir un peuple qui a exilé le Coran de sa vie et qui s'est détourné de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, ils espèrent avoir l'aide d'Allah et avoir l'établissement sur terre. Ça, c'est contraire aux lois d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala n'aide pas des gens injustes, car l'établissement et la lieutenance sur cette terre et l'aide d'Allah et la victoire, il l'a promise aux vrais croyants, à ceux qui s'attachent au Coran, à ceux qui mettent en pratique le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nos pieux prédécesseurs, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait, et les premiers siècles de l'islam. C'est pour ça que ce sont les meilleurs siècles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loués, que Allah ta'ala avant ça a loué dans le Coran. Et eux, quand ils se sont attachés au Coran, c'est pour ça qu'ils ont été élevés, et que jusqu'à maintenant on parle d'eux, et jusqu'à maintenant on les prend comme exemple, car ce sont les meilleurs exemples, et les derniers de cette communauté, ils ne pourront se corriger qu'avec quoi, que ce avec quoi les premiers se sont corrigés et se sont réformés. Ceux qui rêvent qu'on va avoir l'aide d'Allah juste parce qu'on est musulman, alors ils sont dans un égarement et ils sont encore dans les rêves. Ce n'est qu'un rêve, car Allah tabaraka wa ta'ala a donné des conditions pour mériter son aide et sa victoire. Il a dit dans Sourate An-Nur, verset 55, dans le sens des versets, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Donc ici, cette promesse d'Allah, elle est pour qui? Ceux qui ont la bonne foi, la bonne croyance et les bonnes œuvres. De même, qu'il y a aussi des obligations une fois qu'Allah nous a donné la victoire et nous a aidés. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Hajj, verset 41, dans le sens des versets, « Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. » Revenez donc au Coran. Attachez-y vous, arrêtez de l'exiler et de le délaisser de votre vie. Lisez-le, apprenez-le, mettez-le en pratique. Réformez votre comportement selon les enseignements du Coran. Revenez pour vous faire juger en toute chose au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayez d'en comprendre les sens, les règles. Apprenez-le, enseignez-le à vos enfants. Soignez-vous avec et arrêtez de délaisser et d'exiler le Coran de votre vie, car sinon jamais on ne méritera l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala et on sera toujours avide.